VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir l'Afrique, Idrissa Seydou Diaye, Morgan Guiriec au micro, édition du lundi 6 avril 2015, à la une ce soir.
Conséquence de l'attaque contre l'université de Garissa, le Kenya a mené des frappes aériennes contre Al-Shabaab en Somalie.
Libération au Mali du Néerlandais détenu par le groupe islamiste ACMI.
En République démocratique du Congo, le premier parti de la majorité présidentielle s'apprête à présenter un candidat autre que le président Joseph Kabila.
Dans cette majorité, il n'est pas interdit qu'il y ait un parti qui décide de présenter un candidat en présidentiel. Nous devons respecter la constitution qui prévoit la limitation des mandats.
L'Arabie Saoudite demande au Pakistan des troupes, avions et navires pour aider sa coalition au Yémen, selon Islamabad.
L'accord cadre sur le nucléaire iranien est jusqu'ici le meilleur pari que l'on puisse faire, estime le président Obama.
Et dans quelques instants, la Minute Éco et les sports, mais d'abord le journal.
Un Néerlandais détenu au Mali par le groupe islamiste ACMI a été libéré aujourd'hui par des soldats des forces spéciales françaises lors d'une opération dans l'extrême nord du Mali. C'est ce qu'annonce le ministère français de la Défense. L'otage néerlandais, Rechke, est maintenant libre. Cette action de combat a permis la capture de plusieurs individus, précise le ministère de la Défense dans un communiqué.
La réaction du Kenya n'a pas tardé. Quelques jours après l'attaque de l'université de Garissa, les forces kenyanes ont mené des frappes aériennes contre des positions d'Al-Shabaab en Somalie voisine. Les détails avec vous, Bagassikoura.
L'aviation kenyane a frappé dimanche deux camps dans la région de Gedo, située au sud de la Somalie. Aucun bilan immédiat sur les pertes ou les dommages causés par ces frappes. Al-Shabaab a mené plusieurs attaques au Kenya au cours des dernières années. La dernière en date est celle contre l'université de Garissa, proche de la frontière somalienne. Une attaque qui a fait 148 morts et Al-Shabaab promet d'autres actions à moins que le gouvernement kenyan retire ses troupes de la force africaine engagée contre les islamistes en Somalie. À Garissa, les forces de sécurité ont combattu les militants pendant 15 heures et ont sauvé plus de 500 étudiants. Mais plusieurs journaux kenyans ont critiqué ce qu'ils ont décrit comme une réponse lente du gouvernement. L'AFP rapporte qu'il a fallu 7 heures aux forces spéciales kenyanes pour arriver sur le site.
Lutte contre Boko Haram, malgré une baisse des attaques, les autorités camerounaises accusent des membres présumés de l'organisation djihadiste nigériane de racketter les agriculteurs et éleveurs dont beaucoup ont été relocalisés loin de la frontière Edresfal.
Selon Midi Yawa Bakari, gouverneur de l'extrême nord du Cameroun, des hommes armés opérant par groupes de 5 à 10 personnes accaparent le bétail, la nourriture et l'argent des habitants le long de la frontière avec l'état de Borno au Nigeria.
La frontière est longue et poreuse. Et cette question, nous le mettons sur le compte l'approvisionnement en termes de petits détails et autres aliments. Et s'ils viennent casser quelques magasins, ils viennent également peut-être détruire quelques greniers. Mais ça, ce n'est pas des attaques en tant que telles. Ça vise tout simplement le ravitaillement. Et c'est pour dire qu'ils sont vraiment dos au mur et qu'ils cherchent, ça c'est des institutions qui visent tout simplement la sauvegarde de leur de l'espèce.
Ceux qui refusent de se soumettre à ce racket sont simplement tués, selon Sali Daïrou, originaire du Nord et député à l'Assemblée nationale du Cameroun.
Les bœufs se sont retrouvés en divagation. Personne ne pouvait aller là-bas et ça fait des milliards que nos populations ont donc perdu.
Boko Haram n'a pas mené d'attaque d'envergure depuis plus de deux mois. Pour le gouverneur Midi Yawa, c'est un signe des difficultés qu'ont les islamistes à se regrouper face à l'offensive des forces sous et il ne donne plus beaucoup de temps à vivre aux djihadistes nigériens.
Une nouvelle violence attribuée à Boko Haram dans le nord-est du Nigeria. Des membres présumés du groupe islamiste ont attaqué un village hier soir. D'après des témoignages rapportés par l'AFP, les assaillants ont ordonné aux villageois de sortir de chez eux avant d'ouvrir le feu sur la population et incendier des maisons. Le bilan pourrait dépasser la vingtaine de morts.
On apprend aujourd'hui qu'une attaque a fait 7 morts vendredi au Tchad. L'embuscade attribuée à Boko Haram visait des civils qui se rendaient au marché de Tchoukoutelia près du lac Tchad. Certaines victimes ont été égorgées, d'autres tuées par balles, indique le sous-préfet de Bagassola, cité par l'AFP. Des engins explosifs artisanaux ont été découverts dans les alentours après l'attaque.
Au Burkina Faso, Salia Sanou, l'ancien maire de Bobo Dioulasso, proche de Blaise Compaoré, la deuxième ville du pays, a été interpellé par les forces de sécurité et est en garde à vue. C'est ce que rapportent plusieurs médias burkinabés. Les autorités n'ont pas donné de raison à cette interpellation, mais le ministre de l'administration du territoire avait menacé dimanche dans un communiqué toute personne qui voudrait troubler l'ordre public. Le CNT, le Parlement de transition, doit voter demain la nouvelle loi électorale excluant les anciens barons du parti de Compaoré aux prochaines élections.
Le Burundi obtient le rappel du représentant de l'Union africaine à Bujumbura. Le départ de Boubacar Diarra aurait été motivé par son rôle dans les objections internationales en nouveau mandat du président burundais. Pierre Nkurunziza le trouvait gênant, notamment sur la question de son troisième mandat, a expliqué à l'AFP un diplomate de l'Union africaine.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'Arabie Saoudite cherche à étoffer sa coalition contre les rebelles houthis alors que de violents combats se poursuivent au Yémen. Riyad a demandé au Pakistan de fournir des troupes terrestres, des avions et des navires de guerre à l'offensive contre les rebelles yéménites soutenus par l'Iran. Les précisions de Timothée Donangmaï.
Le ministre pakistanais de la Défense, Khawaja Mohammad Asif, a fait état de la requête saoudienne lors d'un débat au Parlement sur le Yémen. L'offensive menée par l'Arabie saoudite au Yémen avec l'appui de divers pays a débuté le mois dernier avec pour objectif de rétablir au pouvoir Abd Rabbu Mansour Hadi, le président reconnu par la communauté internationale. Islamabad a promis un soutien général à ses efforts mais n'a pas pris d'engagement spécifique. Sur le terrain, de violents combats se poursuivent dans le sud du Yémen et ont fait une centaine de morts ces dernières 24 heures selon différentes sources que cite l'AFP. Le comité international de la Croix-Rouge se dit dans l'incapacité d'envoyer de l'aide humanitaire, faisant état de difficultés logistiques. C'est dans ce contexte qu'un avion russe a évacué du Yémen 159 personnes, y compris 47 ressortissants russes, rapporte l'agence de presse Interfax.
Le président Barack Obama estime que l'accord cadre sur le nucléaire iranien est jusqu'ici le meilleur pari que l'on puisse faire pour empêcher l'Iran de se doter de l'arme atomique, de la bombe atomique. Dans une interview postée hier, dimanche, par le New York Times, M. Obama a dit que continuer simplement les sanctions contre Téhéran laisserait le monde avec moins d'informations sur le programme nucléaire iranien. Il a ajouté que des frappes militaires ne causeraient que des revers temporaires qui, presque certainement, pousseraient les Iraniens à accélérer leur acquisition d'armes nucléaires. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a encore soutenu hier à la télévision qu'il s'agit d'un mauvais accord qui permettra à Téhéran d'obtenir de telles armes.
En Irak, le premier ministre Haider al-Abdi se promet de travailler avec les autorités kurdes pour libérer la province septentrionale de Ninive aux mains des militants du groupe État islamique. Intervenant aujourd'hui à Erbil, capitale de la région semi-autonome du Kurdistan, M. Abadi a déclaré que les deux gouvernements font face à un ennemi commun. Massoud Barzani, président du Kurdistan, a annoncé que les deux parties vont créer une commission d'experts militaires et sécuritaires pour mettre en œuvre cette collaboration.
À Boston, procureurs et avocats de la défense présentent leur déclaration conclusive au procès de Djokhar Tsarnaev, jugé pour son implication dans les attentats à la bombe au marathon du 15 avril 2013. Cette attaque avait fait 3 morts dans cette ville du Massachusetts. Tsarnaev est également accusé du meurtre d'un policier 3 jours après. Il s'agit de savoir si Tsarnaev va recevoir la peine de mort, si le jury le trouve coupable, il devra ensuite décider de sa sentence. Les avocats de Tsarnaïev soutiennent qu'il a été seulement victime de l'influence maléfique de son grand frère, Tamerlan.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
Coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco ce soir avec Jean-Roger Bion.
Le Fonds monétaire international a accordé au Ghana un prêt d'environ 1 milliard de dollars échelonné sur 3 ans en contrepartie de réformes économiques destinées, selon l'institution, à retrouver une forte croissance. Affaibli par un ralentissement économique, le Ghana va immédiatement recevoir un premier prêt de quelque 115 millions de dollars, a annoncé le conseil d'administration du FMI, qui représente ses 188 États membres. Au total, le Fonds s'est engagé à prêter 918 millions de dollars au cours des 3 prochaines années à Accra, à condition que les autorités mettent en œuvre un plan de rigueur budgétaire, prévoyant notamment une baisse des dépenses publiques. La finance islamique, qui connaît une croissance très rapide, doit être régulée et mieux harmonisée pour poursuivre son développement, a estimé aujourd'hui le Fonds monétaire international dans son rapport. Ce type de finance qui respecte la loi islamique, la charia, interdit notamment la spéculation, le recours au taux d'intérêt qui est assimilé à l'usure, les produits ayant une incertitude excessive ou les investissements considérés comme nuisibles à la société. Selon le FMI, ce secteur actuellement régi par des règles issues majoritairement de la finance traditionnelle nécessite un cadre régulateur et des structures de contrôle répondant à ces risques spécifiques. Et les pays africains producteurs de pétrole ont appelé vendredi à Abidjan à une baisse globale de la production de l'or noir afin de stabiliser les cours sur le marché mondial dont la chute impacte négativement leurs économies. Au terme de 2 jours de réunion, les ministres des 18 pays membres de l'Association des producteurs de pétrole africain, APPA, ont dans une déclaration finale soutenu la création d'une plateforme afin de réduire la production pétrolière et de stabiliser le marché pétrolier.
Voilà, c'était la Minute Éco avec Jean-Roger Bion.
Voilà, on passe à la page sport. Donc on connaît désormais le tableau des 8e de finale et des coupes africaines. En Ligue des Champions, le tirage au sort effectué par la Confédération africaine de football donne les rencontres suivantes. Les Corbeaux de Lubumbashi se déplaceront à Bamako pour espérer continuer leur route dans cette épreuve. La révélation guinéenne, la S Kaloum, devra passer l'obstacle USA à Alger pour continuer à rêver. Les Congolais du Sanga Balende affronteront Al Hilal du Soudan. Un gros morceau, Bagassi.
Oui, le champion en titre, l'Espérance de Tunis, retrouvera El Merrekh, l'autre club soudanais. Là, c'est le par de Dolizé accueillera les Égyptiens de Soumoura. Al Hilal, Al Ali, pardon, d'Égypte jouera contre le Maghreb de Tétouan. Le Raja Casablanca joue contre l'Entente Sétif d'Algérie. L'Entente qui est tenante du titre et elle, Euma d'Algérie, joue contre le CS Faxien.
Et en 8e de finale de la Coupe de la Confédération?
Voilà, on aura le duel ouest-africain entre le 11 créateurs du Mali et la SEC de Côte d'Ivoire.
Les affiches des 8e de finale.
Voilà, justement, de la Coupe de la Confédération, les autres affiches, c'est le Djoliba du Mali qui joue contre Hearts of Cork du Ghana. L'Assaut Chlef d'Algérie affronte le club africain de Tunis. Les Warri Wolves du Nigeria en découdront avec les Congolais de la RDC du MK Étanchéité. Et les Amalek d'Égypte jouent contre le Fous de Rabat. Les Gabonais du Mounana affrontent les Sud-Africains de Orlando Pirates et les Young Africans, les Tanzaniens, donc, joueront contre l'Est Sahel de Tunisie. Les Royal Leopards de Swaziland en découdront avec l'AS Vita Club de la RDC.
Et puis, la NBA, le championnat de basket nord-américain.
Oui, les Cavaliers de Cleveland sont venus à bout de Chicago Bulls 99-94. L'inarrêtable James Harden, auteur de 41 points pour donner la victoire à Houston, 115-112, à Oklahoma City. Miami a été battu par Indiana, 89-112, et Sacramento s'est imposé 107-92 face aux Golden State Warriors.
Voilà pour les sports avec Bagassi Koura. Merci.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Idrissa Seydou Dia et Morgane Guiriec en votre compagnie. Place au dossier du jour. Première escale, Idrissa.
Eh bien, le Niger, où la communauté chrétienne a célébré le lundi de Pâques dans la joie des retrouvailles. Pourtant, le 17 janvier dernier, plus de 80 églises ont été attaquées ou brûlées à la suite de violentes manifestations contre l'hebdomadaire français Charlie Hebdo. Sur les célébrations du lundi de Pâques, Idriss Fall a joint à Niamey Gala Jima Suleiman, un fidèle de l'église évangélique du Niger.
Nous l'avons célébré dans la joie de nous retrouver, et la joie d'une reconnaissance d'avoir vu ce jour. En fait, il y a une sorte de recueillement. C'est vraiment dans la joie que, déjà après la semaine du 17, beaucoup de membres se sont à l'œuvre pour d'abord déblayer, pour nettoyer. On peut dire plus de 80% des églises sont déjà en construction. Donc les membres se sont mis avec les moyens de voir. On n'a pas atteint ça.
Il n'y a pas de rancœur après ce qui s'est passé?
Non, si vous avez suivi déjà le 18 et le 19, l'ensemble de la communauté chrétienne nigérienne a fait déclaration que nous on a pardonné. Donc il n'y a pas de rancœur. Il y avait la colère, certes, mais c'est une colère tout à fait humaine, normale, mais il n'y a pas de rancœur. La rancœur, on ne serait pas là, non. Il n'y a pas de rancœur. C'est un événement auquel préparé. La colère, mais il n'y a pas de vainqueur.
Pour rappel, cette journée du 17 janvier, qu'est-ce qui s'est passé?
Ça devait être une journée comme les autres. C'est vrai, il y avait des manifestations à l'intérieur du pays. Il y avait le ministre de l'Intérieur qui était sorti à la télévision pour dire officiellement, bon, ce qui est Niamey, la capitale, les mesures sécuritaires ont été prises. On a écouté, on était à la limite rassurés. Mais le lendemain, aux environs de 11h30, les événements se sont enchaînés rapidement. Une manifestation mal contenue, la première église qui a commencé à être brûlée, voilà, ainsi de suite. Il a fait enchaîner, ça a été très rapide. Pratiquement à 17h, vous avez plus de 84 églises qui ont été vandalisées, pillées et puis brûlées. Et à peu près, c'est 84, hein, les églises évangéliques et catholiques.
Est-ce que l'État aide un peu à la reconstruction?
Oui, on a fait une lettre, elle est même finie, je crois. Il y a un comité de crise qui a été mis. Donc, l'État a pris l'engagement qu'il va aider à la reconstruction. Normalement, on n'a pas attendu l'État. Une semaine après, déjà, on a commencé à nettoyer, on a commencé avec le moins de bois, avec des équipes récupérables. Je rappelle aussi, comme ça, c'était d'abord une action de vandalisme. Il y a beaucoup de bois ramenés. Moi, dans mon église, on avait plus de 100 bancs métalliques. On a ramené une dizaine. Deux portails qu'on a ramenés, deux bancs en bois qu'on a ramené. Donc les autres églises aussi, c'était pareil, la même chose. Les gens ne prient pas les remords, ramènent certains effets. Et nous, bon, il y a des membres aussi, il y en a qui amènent un sac de ciment, d'autres qui amènent un seau, et ça avec le moins de bois. Donc on n'a vraiment pas attendu l'État. Hein. Les questions sont mises à l'œuvre.
Gala Jima Suleiman, membre de l'église évangélique du Niger.
La Voix de l'Amérique au Niger, sur Enfani FM à Niamey, Zinder et Agadez, et sur Radio Dalol FM à Dongondouchi.
En République démocratique du Congo, l'Union nationale des fédéralistes congolais, UNAFEC, est le premier parti de la majorité présidentielle qui s'apprête à présenter un candidat autre que le président Joseph Kabila à la présidentielle de 2016. Pour ce parti, il ne sera pas question d'un troisième mandat de Kabila. Le parti a tenu le week-end dernier des assises à Lubumbashi, malgré une tentative de la police de disperser ses partisans. Eddy Sango a joint le président de l'UNAFEC et président de l'Assemblée nationale du Katanga, Gabriel Kyungu wa Kumbwanza.
C'est une des résolutions, une des options de mon parti qui a décidé de présenter des candidats à tous les niveaux, aux élections prochaines, à tous les niveaux, ça veut dire local, provincial, législatif, sénatorial et présidentiel.
Est-ce que la famille politique, l'AMP, est d'accord avec vous? Est-ce que ce n'est pas les démariages déjà avec Joseph Kabila?
Oh, il n'y a pas de rupture. Nous sommes de la famille politique, donc de la majorité présidentielle. Dans cette majorité, il n'est pas interdit qu'il y ait des gens qui décident, qui est un parti qui décide de présenter un candidat au présidentiel.
Quand vous dites que vous présenterez un candidat pour la prochaine élection, pensez-vous, vous, en tant que membre de la famille politique de Joseph Kabila, M. Joseph Kabila ne se présentera pas pour un troisième mandat?
La constitution est claire et la famille politique est claire. Nous devons respecter la constitution qui prévoit la limitation des mandats. C'est la Constitution, ce n'est pas que nous devons faire une option. Même le secrétaire général de la famille politique avait dit clairement que le président respectera la Constitution.
Si ce n'est pas un secret, est-ce qu'on peut connaître les candidats en question?
Non, par stratégie, nous ne pouvons pas déjà tout de suite se relever ou bien donner déjà des noms parce que nous avons pris notre décision. Nous sommes avec M. Katumbi dans la majorité présidentielle, mais nous ne pouvons pas déjà à ce niveau-ci avancer qui sera notre candidat. Mais nous avons décidé à soutenir une candidature de notre choix.
Est-ce que ce n'est pas en fait une révolte par rapport au gouvernement?
Nous réagissons parce qu'il ne faut pas se précipiter de faire le découpage de notre province sans donner les moyens de sa politique. C'est-à-dire qu'il faut octroyer 40% de ce caractère. Mais il y a aussi une disposition constitutionnelle.
Au micro d'Eddie Sango, Gabriel Kyungu-wa Kuwanza.
La Voix de l'Amérique en RDC, sur Radio Télé Mwangaza, à Lubumbashi, province du Katanga.
En Afrique du Sud, le gouvernement apportera bel et bien son soutien aux immigrés africains victimes de xénophobie. La mesure a été confirmée hier par le ministre de l'Intérieur. Environ 250 immigrés, dont une majorité en provenance de la RDC, ont été attaqués le 31 mars à Isipingo, en banlieue de Durmont, et se sont réfugiés dans des tentes sur un terrain de sport. À Johannesburg, en janvier dernier, des centaines de boutiques d'immigrés avaient été saccagées lors de troubles qui avaient fait plusieurs morts. Nathalie Barge, adjointe à Johannesburg, le président du Forum de la diaspora africaine, Marc Bafou.
Nous voulons voir les actes se joindre aux déclarations parce que jusque-là, la réaction des membres du gouvernement est mixte. Il y a à peu près deux semaines de cela, je ne sais pas si vous avez suivi, le vice-président de la République de l'Afrique du Sud a dit que le gouvernement était en train d'exécuter un plan pour que les immigrés soient protégés. Mais c'est après ça qu'à Durban, il y a eu les attaques où les migrants ont été tués. Juste au début des attaques, vous avez vu donc la ministre des petites et moyennes entreprises a déclaré que les immigrants doivent les excuser que s'ils ont été acceptés en Afrique du Sud, c'est tout simplement par courtoisie. On a noté, la ministre des Eaux et de la Sanitation a dit que les immigrants sont en train de prendre en otage tous les bidonvilles, on l'a noté. L'ANC n'a pas pu prendre une ligne droite pour calmer le jeu. Le secrétaire général de l'ANC, Goudé Matanché, lui-même a déclaré qu'il faut fermer tous les trous, sinon ouvrir les chemins aux immigrés, c'est exposer l'Afrique du Sud au terrorisme, alors que nous parlons des gens qui ont été attaqués dans les townships, dans leur petit commerce.
Est-ce qu'il est prévu des mesures légales, justement, pour punir eh bien, ceux qui ont perpétré ces violences contre les immigrés?
Ben non, rien n'a été dit. Il y a beaucoup de gens qui ont été arrêtés. Lors des attaques, mais tu apprends qu'en même temps, ils sont arrêtés, en même temps, ils sont libérés. Justement, c'est ça qui inquiète. En 2008, si vous avez suivi, il y a eu 62 personnes qui ont été tuées. Il n'y a aucune personne qui a été donc jugé, condamné. Et ça devient un peu comme une culture que tu peux aller tuer un migrant, il n'y a pas de problème. Il y a un roi, vous l'avez appris, qui a dit que les migrants doivent faire leur bagage et quitter l'Afrique du Sud. Il y a le fils du président qui dit « je soutiens les propos ». Pour le roi, on a approché la commission des droits de l'homme de l'Afrique du Sud. Il y a une autre plainte contre le fils du président, mais on a une conférence de presse pour dénoncer et donc demander au gouvernement de condamner, sinon de donner une ligne droite à tout le monde. Mais de manière quotidienne, nous rencontrons les autorités pour dire qu'il faut que les gens cohabitent.
C'était Marc Bafou, président du Forum de la diaspora africaine en Afrique du Sud.
La Le projet d'Israël d'expulser vers des pays tiers, le Rwanda et l'Ouganda notamment, des Érythréens et des Soudanais en situation irrégulière, suscite l'inquiétude des défenseurs des droits de l'homme. Timothée Donongmaï a recueilli la réaction de Jerry Simpson, chercheur sur les questions de réfugiés à Human Rights Watch.
La situation des plus ou moins 44 000 Érythréens et Soudanais peut en effet être décrite comme personnes en situation illégale, mais ce n'est pas la faute de ces personnes. Ça, c'est le résultat d'une politique qui traîne depuis plus ou moins 10 ans, selon laquelle Israël a essayé, dans les paroles de leur chef, de pourrir leur vie et de leur encourager à quitter le territoire. Les dernières mesures que les autorités y viennent d'annoncer concernant une déportation forcée vers le Rwanda et l'Ouganda suivent une dizaine d'années d'autres tentatives, incluant la détention à durée indéterminée, des empêchements et des obstacles graves en ce qui concerne accès au système d'asile et des obstacles à obtenir du travail et accéder aux soins de santé. Donc cette dernière tentative vise à donner des milliers d'Érythréens et Soudanais le choix de rester à durée indéterminée en prison ou choisissez librement d'être transféré vers le Rwanda et l'Ouganda.
Comment voyez-vous cette idée d'expulser des migrants en situation illégale d'un pays vers un autre?
Tout d'abord, il n'y a pas de crise humanitaire parmi cette population en Israël ni parmi les Israéliens. L'État d'Israël a des obligations très claires selon le droit international des réfugiés. Ils ont signé la Convention de 1951 des droits des réfugiés et selon le droit international droit de l'homme. Or, c'est pas une crise humanitaire et Israël a nié depuis presque 10 ans à respecter très clairement les droits de ces gens à l'accès à un système d'asile efficace. Deuxièmement, le transfert vers le Rwanda et l'Ouganda pourrait être envisagé s'il y a un accord entre l'Israël et un ou deux de ces pays qui garantissent les gens qui sont transférés, accès au système d'asile dans le Rwanda et l'Ouganda, un traitement équitable selon la loi nationale de ces pays-là, un statut sûr et fixe et la protection dont ils ont droit selon le droit international. Or, à ce moment, il n'existe aucun accord qui remplit ces conditions qui sont très clairement établies par le Haut Commissariat des réfugiés des Nations Unies dans un document publié en mai 2013.
Jerry Simpson, chercheur sur les questions de réfugiés à Human Rights Watch, nous parlait du sud de la France.
Salut les amis, Roger Montou de VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel au programme 10 Top American Music, d'où la bonne musique de l'hit-parade américain. Nous allons aussi conclure avec notre sujet de la semaine dernière. Comment éviter les conflits avec sa belle famille? Comment améliorer la relation avec sa belle famille? Envoyez-nous vos réactions par SMS au 225-5892-8540. Encore une fois, 225-5892-8540. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show. Appelez-nous aussi au 001-202-619-3140. Et le 001-202-619-3140. RM Show, c'est cher. Chaque soir à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, un rappel de quelques grands points de l'actualité.
Un Néerlandais détenu au Mali par le groupe islamiste ACMI a été libéré aujourd'hui par des soldats des forces spéciales françaises lors d'une opération dans l'extrême nord du Mali.
La réaction du Kenya n'a pas tardé. Quelques jours après l'attaque à l'université de Garissa, les forces kenyanes ont mené des frappes aériennes contre des positions d'Al-Shabaab en Somalie voisine.
À la mise en onde ce soir, Morgane Guiriec, à plutôt Lionel Gaïma. Présentation Idrissa Seluya et Morgane Guiriec.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet voafrique.com.
Washington, la Voix de l'Amérique, VOA Afrique, nous nous excusons de cet incident technique.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Kledou FM Bamako. Raga FM Goma. 96.5 Fraternité FM Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes.